BFM Bourse, le club de la bourse.
Et nos experts du club ce soir, ils viennent de nous rejoindre. Kevin Tauzet pour Carmignac. Bonjour Kevin.
Bonjour Guillaume.
Et Alexandre Baradet, chef analyste d'IG France. Bonjour Alexandre.
Bonjour Guillaume.
Ravi de vous retrouver l'un et l'autre. On va parler de toutes ces thématiques bien sûr. D'abord, Christine Lagarde qui n'exclut pas, on peut peut-être démarrer là-dessus, c'est l'info de cet après-midi, du jour, de quitter son fauteuil à la BCE avant la fin de son mandat. La fin de son mandat, c'est en octobre 2027. Elle dit qu'il faut qu'une voix européenne pèse dans cette présidentielle. Elle n'exclut pas de s'en aller avant la fin du mandat. Comment vous regardez ça?
Il y avait déjà eu quelques rumeurs il y a quelques mois, si je me souviens bien, oui. qui n'avaient pas été confirmées. Là, le fait qu'elles le disent, effectivement, c'est un peu plus concret. Est-ce que c'est probable? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est cette volonté d'aller chercher effectivement à peser dans le débat politique et public d'ici la présidentielle. Oui, c'est quelque chose qui pourra se faire. Après, quelles conséquences? On voit qu'il n'y a pas de réaction d'un point de vue marché. Ça n'a pas bougé du tout, ni les indices, ni les taux, ni quoi que ce soit. Donc voilà, si on se base d'un point de vue pur en marché, c'est pour le marché, pour l'instant, c'est un non-sujet.
Oui, ça pourrait le devenir ou pas si elle partait avant la fin de son mandat, Kevin? On sait déjà qui pourrait lui succéder.
Alors, les marchés sont dans l'anticipation. C'est vrai que 2027, ça peut nous sembler loin, mais peut-être pas si loin que ça. Allez. Et il y a peut-être aussi dans cette volonté d'avoir un départ anticipé à la tête de la BCE, peut-être une volonté de la France, de l'Allemagne, pouvoir peser sur le prochain directeur de la Banque Centrale, et ça avec, on va dire, des gouvernements qui sont considérés comme ayant des politiques un peu plus orthodoxes. C'est peut-être ça aussi qui se joue en filigrane. Après, voilà, sur la séquence, je crois que Mme Lagarde a démontré dans la séquence inflationniste de cette année, bien qu'elle était peut-être même plus orthodoxe, en tout cas, qu'elle respectait plus davantage ce mandat en remontant les taux il y a quelques semaines que d'autres grands argentiers.
Oui, plus prompte à relever les taux si besoin. Elle a été critiquée, la hausse de taux du mois de juin de la Banque Centrale Européenne. Bon, après, ça n'est qu'une hausse de taux. C'est peut-être pas cette hausse de taux qui va plomber définitivement le peu de croissance qu'on a en Europe. Mais quand même, l'inflation ralentit au mois de juin en zone euro. On a eu le chiffre cette semaine. Ce qui confirme que, bon, manifestement, est-ce qu'une hausse de taux était vraiment absolument nécessaire? L'inflation ralentit déjà. On n'avait pas eu besoin de cette hausse de taux pour l'avoir ralenti. Ouais, à quoi bon cette hausse de taux?
Si on remet un petit peu de contexte, c'est vrai que la Banque Centrale Européenne avait établi, on va dire, trois grands scénarios. Un scénario de base, un scénario plutôt favorable, qui semble être celui qui se joue actuellement, et un scénario plus défavorable, où on avait une inflation beaucoup plus rémanente, des prix d'énergie beaucoup plus élevés pour beaucoup plus longtemps. Et dans chacun de ces trois scénarios-là, la Banque Centrale Européenne disait quoi? Qu'il fallait au moins faire une hausse de taux d'intérêt. Ce à quoi elle s'est prêtée, voilà, sur la séquence à venir, ce sera sans doute une pause en juillet, et puis une réunion live, comme on aime à dire, quand on commence ces réunions-là, donc une vraie question sur septembre. On aura d'ici là un peu plus de détails sur l'inflation, on aura les détails du chiffre de l'inflation le 17 juillet, et ça permettra quand même pour les équipes de la Banque Centrale Européenne et pour Mme Lagarde de décider sur la prochaine.
Après l'inflation de cette semaine, le marché anticipe désormais moins de hausse de taux, a priori, Alexandre.
Oui, effectivement, on a fait une petite note de marché là-dessus ces dernières 48 heures, parce qu'effectivement, quand on se parlait il y a une dizaine de jours, on avait des probabilités pricées par le marché, donc sur les instruments financiers court terme, on avait un pricing aux alentours de 65-70% de probabilité, c'est ce que le marché pensait pour la réunion de septembre, donc une hausse de taux qui était dans les cartons, et on se rend compte que 10 jours plus tard, on a aujourd'hui un peu au-delà de 40%, donc on est passé sous le seuil assez psychologique des 50%, et puis c'est vrai que c'est une très bonne nouvelle qu'on a eu en juin, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas assez parlé de ça, mais assez rapidement, finalement, on voit déjà les premiers effets potentiellement de cette détente géopolitique avec les deux mesures d'inflation, à la fois la mesure globale, donc CPI, et la mesure core, c'est-à-dire sous-jacente, hors alimentation, hors énergie, qui, toutes les deux, sont sorties en dessous des attentes et en dessous du mois précédent, et je ne vois pas comment cette inflation pourrait, alors, sauf reprise du conflit, pétrole qui redémarre, mais si la situation reste stable, pour moi, il n'y a aucune raison que l'inflation reparte très fortement. Il faut toujours rappeler ces chiffres, c'est capital. Les trois mois qui ont précédé la guerre en Iran, vous aviez une inflation globale en zone euro qui était ou égale ou inférieure à 2%. Donc tout le jump d'inflation qui nous a amené à plus de 3%, c'est quasi, je ne dis pas 100% imputable au pétrole, mais pas loin. Donc si ce pétrole retombe, et c'est le cas, à la fois le Brent et le même WTI, on est revenu sur les niveaux du début de la guerre, en fait, des niveaux de fin.
Mais à 71 dollars le Brent, là. Ouais.
Comme quoi, il y a des banquiers centraux qui arrivent à respecter leur mandat.
Oui, mais d'autres denrées ont vu quand même leur prix augmenter. Et Hormuz, qu'est-ce qu'il nous dit qu'Hormuz va définitivement, sans péage, sans droit de douane, rester ouvert? Enfin, on est en train de se réjouir et nous-mêmes de tirer des conclusions de la baisse du pétrole sur l'inflation. De même que certains reprochaient à la BCE d'avoir relevé ses taux parce qu'elle allait trop vite en besogne sur une hausse de l'inflation. Là, est-ce qu'on va pas trop vite en besogne sur la fin de la hausse de l'inflation?
Enfin, La problématique pour la Banque Centrale Européenne, c'est quoi? C'est les anticipations d'inflation. C'est pas tant l'inflation réalisée. Alors évidemment, il y a un lien de cause à effet. Hein. Si on a une inflation ponctuelle qui est très élevée, ça risque de venir faire remonter ces anticipations d'inflation. Et ça, pour les ménages comme pour les entreprises. Et c'est pour ça que je crois que la Banque Centrale Européenne disait qu'il fallait remonter ces taux d'intérêt rapidement. Et puis il valait mieux en faire un petit peu rapidement que attendre de trop et devoir en faire davantage plus tard, ce qui aurait pu être vraiment davantage dommageable à l'économie européenne.
Bon, il y a la question effectivement de l'avenir des taux d'intérêt ici en zone euro, en Europe tout simplement, la question américaine sur laquelle on pourra revenir après le rapport sur l'emploi publié hier, d'ailleurs je sens que vous allez rebondir dessus, entre l'Europe et les États-Unis, vous vous dites quoi là? Qu'est-ce qui d'un point de vue monétaire, compte tenu des données qu'on a eues cette semaine, peut-être a le plus changé dans ce que le marché peut anticiper? Plutôt c'est aux États-Unis qu'on a les plus grands changements anticipé ou plutôt en Europe?
Alors, je dirais que le risque d'inflation est persistante, il est quand même beaucoup plus aux États-Unis parce que d'accord, avant la guerre en Iran, on avait déjà une inflation sous-jacente sur les mesures PCE notamment, core PCE qui était la mesure vraiment principale de la Fed, qui était depuis plusieurs trimestres encore, ouais, et même depuis des années en fait.
5 ans. 5 hein.
Voilà,
ans au-dessus de l'objectif.
Donc la Fed avait déjà une problématique et c'était la problématique de Jérôme Powell qui s'est opposé à Trump, Trump s'oppose à Powell assez violemment sur ce sujet-là. Donc la question elle est beaucoup plus problématique pour la Fed. Après, est-ce qu'il y aurait cette hausse
donc,
de taux?
Donc pour vous, la possibilité d'une hausse de taux de la Fed reste sur la table, même si le marché de l'emploi ralentit, qu'on a vu des chiffres très surprenants, de l'emploi qui ralentit, deux fois moins de création de postes qu'attendu, vous dites ça ne va pas contre l'idée d'une hausse quand même de la Fed,
non,
de taux de la Fed.
Je ne dis pas qu'on aura cette hausse, mais au minimum des taux qui resteront stables pendant pas mal de temps. Et on voit quand même la Maison-Blanche, que ce soit le conseiller économique Kevin Hassett, qui était un des premiers à taper sur Powell avec la meute de la Maison-Blanche. Là, il a un discours, on l'a entendu encore récemment, beaucoup plus lisse, beaucoup plus politique avec Kevin Warsh, et il dit, je suis sûr que Kevin Warsh parviendra à convaincre en gros le board de la Fed de ne pas avoir cette hausse de taux. Donc je pense qu'on part plutôt pour un taux qui va planer quelques temps encore élevé, une hausse. Il faut vraiment que l'inflation continue d'accélérer.
Il y a deux éléments, c'est-à-dire que si on regarde d'abord
encore une hausse de taux de la Fed ou pas, Kevin, pour vous participer à cette idée ou pas?
Je pense que le marché du travail américain, l'économie américaine, elle croît quand même à un rythme relativement élevé. Je veux dire, la croissance des salaires, elle est autour de 3,5. On a eu des chiffres de l'emploi hier, certes, en deçà des attentes. Si on regarde voilà, sur des moyennes 3 mois, il y a quand même plus de 100 000 créations d'emplois aux États-Unis sur 3 mois glissants. C'est quand même radicalement différent de ce qu'on avait en 2025, où là, on tournait toujours plutôt autour de 10 000 emplois créés chaque mois. Donc, c'est quand même pas tout à fait la même configuration. Donc, on a quand même une économie américaine qui est plutôt en bonne santé et potentiellement qui réaccélère. Donc ça prêcherait plutôt en faveur de hausse de taux. On a un taux de chômage qui est abaissé hein, également. Donc, je tirais pas trop de conclusions sur le chiffre du NFP d'hier, sachant qu'on a d'autres données. On a les données, entrant dans la technique, mais voilà, ADP, Revelio, oui. On a d'autres organisations qui nous donnent les chiffres de l'emploi, qui étaient là plutôt plutôt costauds. Donc ça, c'est un point. Et je crois que ce qui est intéressant et ce qui est intéressant dans nos métiers, je crois pour les investisseurs globalement, c'est qu'on a une division qui est extrêmement forte au sein de la Réserve fédérale, en tout cas sur la future trajectoire de politique monétaire. C'est-à-dire que quand on regarde ce que votent ou les intentions qui sont données par les différents membres de la Réserve fédérale, bah on en a à peu près la moitié qui nous disent que les taux d'intérêt vont rester là où ils sont, et on en a la moitié qui nous disent qui doivent remonter. Quand on regarde sur les marchés d'options,
il y en a plus qui attendent de baisse de taux.
Et quand on regarde sur les marchés d'options, donc le chiffre que donne Alexandre, ce 50% de probabilité, en fait, il reflète quoi? Mais il reflète là aussi quasiment la moitié des opérateurs de marché qui estiment qu'on aura pas de hausse ou une baisse, et à peu près la moitié qui estime qu'on aura une hausse de taux ou plus. Et quand on regarde les grandes banques d'investissement américaines, ben il y a aussi cette espèce de grand écart là entre ceux qui nous disent trois hausses de taux d'un côté et de l'autre trois baisses de taux. Et ça, ben je crois que le pari de monsieur Warsh est sans doute gagné sur ce front là il voulait plus d'incertitude ou plus de flexibilité dans les perspectives de politique monétaire, ben on est en plein dedans.
Oui, et c'est vrai que les probabilités côté États-Unis sont plus élevées encore. C'est vrai que les probabilités, alors j'ai regardé ça avant que Kevin Warsh nous parle, on était aux alentours de 80% de probabilité pour avoir au moins une hausse de taux. C'est ce que le marché price, je ne dis pas que c'est ce qu'on aura, mais c'est ce que le marché price. Et gros, le statu quo, c'est à peine 20%. Et, il me semble qu'il y a aussi un sujet qui est peut-être aussi un sujet qu'on voit sur le Japon à une échelle un peu différente, mais il y a le niveau des taux longs qui, moi, je pense, va devenir problématique à un moment donné pour l'économie américaine. Pour l'instant, elle est résiliente, mais là, l'économie en cas qu'on a aux États-Unis montre que pour une partie de la population, les taux sont trop élevés, que ce soit pour le crédit conso, pour les crédits IMO ou autre. Et le fait, peut-être, effectivement, de laisser penser qu'on peut, sans le faire forcément, mais de laisser penser pendant quelques mois qu'on peut relever les taux, bah, ça peut permettre d'éviter que les taux longs ne continuent de s'emballer. En fait, si à un moment donné, vous dites, vous menacez ou vous laissez penser que vous pouvez le faire, eh bien, c'est, si vous le faites, vous risquez de ralentir l'économie et du coup, les taux longs partiraient un peu à la baisse.
Et je crois qu'il y a quand même, pas beaucoup de classes d'actifs qui sont prêtes à un nouveau cycle de hausse de taux de politique monétaire aux États-Unis.
Oui, alors justement, non, mais effectivement, et c'est toute la question aussi qui se pose aux investisseurs, à ceux qui nous regardent, est-ce que l'environnement économique va continuer de pousser en faveur des marchés actions dans les prochains mois? Est-ce que vous le sentez en quelque sorte, que ce soit en Europe ou aux États-Unis? Il y a une baisse du pétrole, on espère qu'elle se poursuivra. Il y a quand même aussi des élections de mi-terme à venir aux États-Unis. Est-ce que ce deuxième semestre qui démarre en bourse, Alexandre, alors je sais que vous êtes prudent sur les valos américaines, mais bon, est-ce que malgré tout en bourse, vous le sentez bien ce deuxième semestre? Et vous avez le droit de dire non, il n'y a pas de problème.
Non, j'ai l'impression qu'effectivement, c'est encore une fois, quand les marchés ont déjà très largement performé, on a des zones, mais c'est encore plus le cas, la Corée du Sud par exemple, avec des performances absolument stratosphériques de certains indices, et donc dont les compartiments tech évidemment, semi-conducteurs ou autres, on se dit qu'il y a un peu de maturité à avoir, mais c'est vrai que les multiples traduisent quand même un petit peu ça, c'est vrai que c'est assez frappant, c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui le SP500, il se paie un peu plus de 20 fois les bénéfices, entre 20 et 21 fois, c'est plus les 23 fois les bénéfices qu'on avait il y a encore quelques mois, tout ceci s'est fait grâce aux publications de résultats qui ont été vraiment excellentes au premier trimestre. Et donc, comme le marché se dit, on en parlera peut-être après, les publications pour le deuxième trimestre qui vont arriver dans quelques jours, on attend encore aux côtés des États-Unis des croissances de plus de 20% de bénéfices. Donc ça continue d'écraser un peu les multiples. Et pour autant, les moyennes, moi j'aime bien parler des moyennes parce que dans l'histoire, on voit qu'il y a des retours à la moyenne de temps en temps. La moyenne de valo du SP500 sur des horizons de quelques décennies, c'est plutôt 17 fois les bénéfices plutôt qu'au-delà de 20 fois. Donc, c'est pas des multiples qui se rapprochent de la bulle Internet. Le Nasdaq, à l'époque, c'était quasiment 80 fois les bénéfices. Aujourd'hui, c'est entre 35 et 40 fois les bénéfices. C'est pas la même chose. Mais en dehors de la bulle Internet, si on enlève cet aspect-là qui était le cas le plus extrême dans l'histoire américaine sur la partie tech, on est quand même sur le très haut du panier en termes d'historique de valorisation. Donc, moi, là-dessus, je serai un peu plus prudent. Et puis, à la macro, c'est quand même une question aussi, parce que je prends un cas très simple, je m'arrête là-dessus. Les anticipations de croissance pour le T2, on avait démarré la Fed d'Atlanta, qui est ce modèle automatique, elle avait démarré le trimestre aux alentours de 3,5, 4%, parfois un peu au-delà de 4%. Et on a vu que cette dernière semaine, on est venu chercher la zone des 1, 1,2%. Effet lié à la balance commerciale, effet lié à de tout ce qui est investissement privé notamment, et un peu les dépenses de consommation qui sont pas extraordinaires pour les États-Unis. Donc, est-ce que la croissance, Kevin Hassett nous parle d'un 4% de croissance sur le second semestre, moi ce que je vois c'est qu'au T1 on est sur du 2% en rythme annuel, et au T2 on semble s'orienter vers quelque chose peut-être proche de 2%, donc on n'est pas sur un 4% annuel. Si on arrive à avoir du 2% cette année de croissance aux États-Unis, je pense que ce sera pas mal.
Ouais. Enfin, 2% de croissance aux États-Unis, c'est la croissance potentielle, hein. Donc, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle.
On aimerait voir la même.
Je suis assez d'accord. Peut-être pas les Espagnols, ils peuvent faire plus, le reste de l'Europe, 2%, c'est quand même bien. Sur le deuxième trimestre, le deuxième semestre, pardon, il y a quand même, je crois, potentiellement quelques signes d'encouragement. C'est-à-dire que on a quand même eu ce qu'on appelle un choc stagflationniste, si j'en prends des gros mots d'économistes. Une hausse des prix, une baisse des anticipations de croissance. Là, on a à peu près l'inverse d'un choc stagflationniste. Et c'est à peu près ce que nous ont dit les indices PMI ce matin en zone euro, avec un vrai rebond dans les services en Allemagne, un vrai rebond en Espagne. Donc, pourtant, ça nous a fait mal. À nous, Européens, ça peut mieux se passer. Il y a une autre grande économie qui est l'économie chinoise, où là, ça se passe quand même pas très bien. Là, pour le coup, on a une vraie visibilité sur les ventes au détail qui sont proches de zéro. On a un taux de chômage chez les jeunes qui, avant même la fin des examens, et donc toute cette vague de nouveaux étudiants tourne autour de 16-17%. Et puis, on a des pressions tarifaires de par le monde qui commencent à monter. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura peut-être des autorités chinoises qui, sur le troisième trimestre, pourraient venir relancer un peu leur économie. Donc ça, c'est une deuxième potentielle bonne nouvelle.
Ah oui, oui. Alors ça, c'est un grand si quand même. Et c'est un grand conditionnel. Mais
ça peut s'envisager. Ouais. Et puis vous parliez des mi-termes, enfin les élections du mandat. Je ne crois pas que les élections du mandat soient un sujet en tant que tel, c'est-à-dire la défaite du Parti des Républicains. Elle est déjà estimée à quoi, 85% si je regarde des sites de Paris en ligne ou des sondages pour la chambre basse. Ce que ça voudra dire si on a voilà cette politique qu'on appelle de canard boiteux, hein, avec voilà un président qui n'a pas le Congrès avec lui, bah c'est sans doute davantage de dépenses budgétaires, parce que c'est sans doute là-dessus que et démocrates et républicains arrivent à s'accorder. Et donc tout ça, bon an mal an, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand même un environnement macroéconomique qui est pas mauvais. Après, qu'est-ce que ça veut dire pour les marchés d'actions? Je crois que ça veut dire des moteurs de performance actions qui sont peut-être un petit peu moins concentrés uniquement sur le secteur technologique, a fortiori parce qu'on a quand même des attentes sur ce secteur technologique, et comme le disait Alexandre, je pense qu'on va parler du deuxième trimestre et du troisième trimestre, qui sont absolument stellaires. C'est-à-dire que les attentes de croissance des bénéfices par action, elles sont au ciel.
Et on va entrer dans le détail.
Et donc, on peut avoir une forme de rotation dans les marchés. Et je crois que c'est quand même plutôt une bonne nouvelle pour les investisseurs dans leur ensemble.
On entre dans le détail.
Je pense que c'est la rotation, effectivement, qui sera le point, le problème du S2. C'est-à-dire qu'effectivement, des flux qui vont revenir plus sur l'Asie, surtout si la Chine fait quelque chose, et sur l'Europe aussi. Alors, on le voit ces derniers jours. C'est, je pense, un bel exemple de ce qui peut attendre au S2. Mais c'est une Europe qui se porte mieux, moins de prix du pétrole, qui pèse là-dessus.
C'est la rotation. C'est vrai que ce qu'on fait des investisseurs sur le premier semestre, c'est quand même de vendre de l'Europe pour aller acheter les actions tech américaines. Donc, s'ils achètent un petit peu moins d'actions tech américaines, ben, ils y reviendront sans doute vers l'Europe, et ça peut aider.
On poursuit les échanges dans un instant. On est à un petit quart d'heure maintenant de la clôture qu'on va vivre ensemble. Bien sûr, le CAC 40 à 17h20 gagne 0,5% actuellement. ArcelorMittal est en tête. En fait, les acteurs des infrastructures industrielles aussi sont en progression. ArcelorMittal gagne 5,5%, on le disait. Engie gagne 2,3%. Veolia aussi gagne 2,9%. Legrand, dans les équipements électriques, gagne 2,2%. Les replis, Stellantis abandonne 3,4%. On a encore une difficulté sur Essilor Luxottica, aujourd'hui moins 1,8%. Et puis le secteur du luxe aussi souffre. D'après HSBC, la publication du deuxième trimestre s'annonce assez atone, assez léthargique de la part des acteurs du luxe européen. On en parlera tout à l'heure dans la suite de BFM Bourse. On va parler dans un instant aussi d'allocation, bien sûr, pour vos portefeuilles, avec nos deux experts Kevin Tauzé et Alexandre Baradez. Kevin, on attend quoi précisément sur les publications d'entreprises? Vous disiez aux États-Unis, ce qui est attendu est stratosphérique, peut-être excessif. Est-ce qu'on peut l'illustrer? Parce qu'on a déjà eu des publications au premier trimestre largement au-delà des attentes. Ouais. Maintenant, les attentes attendent quoi?
Alexandre le disait, ce qui est anticipé pour le deuxième trimestre, le troisième trimestre et le quatrième trimestre, c'est une croissance des bénéfices par action supérieure à 20%. Hein, donc trimestre après trimestre sur un an glissant. Si je soulève le capot, qu'on regarde un peu sous la surface, on voit des choses. Je disais stratosphérique. La croissance donc des bénéfices par action pour les entreprises du secteur des semi-conducteurs, c'est 120%. 120% de croissance des bénéfices par action attendus sur le deuxième trimestre et aussi sur le troisième trimestre. On a à peu près la même chose sur le secteur de l'énergie. Alors sur le secteur de l'énergie, il est attendu que ça retombe un peu comme un soufflé, hein, comme les courbes des prix futurs du pétrole. Pourquoi c'est important d'avoir ces chiffres-là en tête? Je pense deux raisons. La première, c'est que si c'est des chiffres qu'on communique, c'est des chiffres qu'on a tous et qu'on voit tous, et donc c'est peut-être ça qui justifie aussi ces performances stratosphériques qu'on a eues sur cette première partie de l'année. Ouais. Exactement. Et puis, il y a une deuxième problématique, c'est que on va basculer sur le deuxième semestre, ce qu'on est en train de faire nous-mêmes en ce moment, et on va commencer à regarder un petit peu au-delà de l'année 2026. Et ce qui nous attend pour 2027, c'est aussi une croissance très forte des bénéfices par action pour le secteur des semi-conducteurs, mais pas de 120%. Et donc, en fait, on aura une croissance forte des bénéfices par action, mais une décélération de ce rythme de croissance. Et en général, ça peut amener, on va dire, des mouvements de rotation vers d'autres secteurs. Et je crois que ce sera ça, pour moi en tout cas, la clé de cette publication de résultats. Est-ce que ça délivre au moins autant que ce qui est aujourd'hui dans les prix et dans les anticipations, d'une part, et ensuite, quand les investisseurs vont commencer à regarder un peu plus loin, est-ce que la croissance des bénéfices par action pour 2027, non pas de 90 ou 100 ou 120%, mais autour de 50-60%, ce qui est déjà extraordinaire, mais qui est beaucoup moins important, les investisseurs, il y a des chances qu'ils aillent regarder un petit peu ailleurs.
Oui, vous la sentez venir, la rotation à l'occasion des publications, elle est déjà là, hein, depuis le début de l'année, le Russell 2000 cartonne, on voit aussi des mouvements en dehors des États-Unis. Vous pensez qu'elle va se confirmer, Alexandre?
Alors, oui, mais j'attends quand même un catalyseur pour qu'elle soit un peu plus forte. Et effectivement, je pense que c'est vraiment toute la Chine qu'il faut regarder. C'est-à-dire que les dernières statistiques, Kevin en parlait, on a même eu une contraction des ventes de détail. C'est la première fois depuis 3 ans qu'on a eu ça. Et on voit effectivement la partie d'investissement, tout ce qui est fixed asset, donc c'est l'investissement urbain, tout ce qui est pareil, c'est nettement inférieur à ce qui est attendu. Et on voit que c'est quand même tendanciel. Ça fait quand même plusieurs mois qu'on a comme ça une vraie phase de ralentissement. Donc je pense qu'on attend tous une réaction de la PBOC, donc la Banque Centrale Chinoise, des autorités, peut-être des mesures de soutien un peu fiscales. Il y avait déjà eu des mesures comme ça, si vous vous souvenez bien, quand la crise immobilière était vraiment très forte, ils avaient décidé de baisser les taux d'emprunt pour les ménages, mais des emprunts qui étaient déjà contractés. On n'a jamais vu un truc comme ça en Europe, mais en Chine, voilà, on disait aux ménages qui avaient déjà un prêt en cours, bah, vos mensualités vont baisser parce qu'autre taux, la banque va vous baisser le taux. Donc je pense que ce genre de choses, on pourra en avoir encore dans les mois qui arrivent. Et à ce moment-là, effectivement, je pense qu'il y aura, on voit le Hang Seng, par exemple, pour moi, il est donné. C'est-à-dire, si on cherche des choses pas très chères à acheter en ce moment, dans l'espoir de les voir grimper ensuite assez sensiblement, je pense que prendre du Hang Seng avec la tech ou autre chinoise, il y a toujours le risque politique, mais c'est tellement peu cher. Les États-Unis c'est là, l'Europe c'est là, et la Chine.
Mais ça restera peu cher. Vous seriez prêt, vous, à titre personnel, à investir dans la tech chinoise malgré les...
Je parlais de l'effet de base dans le secteur des semi-conducteurs aux États-Unis. Donc voilà, on a peut-être passé voilà le pic de la croissance des résultats, des anticipations de croissance des résultats sur ce secteur aux États-Unis. En Chine, on va avoir un effet de base extrêmement favorable sur le dernier trimestre de 2026. Pourquoi ? Parce qu'au dernier trimestre de 2025, beaucoup de ces grands acteurs chinois, internet, technologique, ont fait beaucoup d'investissements et, alors je me perds peut-être un petit peu dans les détails, mais beaucoup d'investissements, notamment dans tout ce qui est service de livraison à domicile. Et donc, on va avoir un effet de base extrêmement favorable pour les géants de la tech chinoise sur le dernier trimestre de cette année.
C'est aussi qu'il faut regarder les secteurs européens qui sont vraiment très en retard, secteur auto, secteur de luxe aussi. Ça, c'est très sensible à la Chine. Bah, si la Chine fait la relance, tout de suite, il y aura une sensibilité sur la partie des valeurs qui ont des multiples aujourd'hui, du luxe, qui sont nettement écrasées. Le secteur auto, n'en parlons pas, c'est à la casse complètement.
Il y a un rapport entre nos valeurs automobiles et la Chine.
Parce que si la Chine fait la relance, la demande domestique va s'accroître, et donc ils ont une capacité à absorber leur surcapacité, et aussi probablement... Parce qu'on sait, on voit que l'Europe commence à muscler un peu le taux, hein, par rapport à l'Allemagne notamment, par rapport à la Chine, par rapport à ses importations et ses parts de marché gagnées par la Chine. Donc je pense qu'il y aura un moyen d'étendre un peu la situation, qui soit pas via des tarifs douaniers par exemple, c'est justement de faire un peu de stimulation domestique en Chine pour absorber un peu ses surcapacités à la fois domestiques et un peu plus les importations européennes. Donc je pense qu'il y a un coup à jouer effectivement, un peu à l'avance, mais sur l'auto, sur tout ce qui est voilà luxe, tout ce qui est sensible à toute la partie export vers l'Asie notamment.
D'accord. En misant sur la Chine et peut-être un plan de relance. Hein, c'est votre pari, enfin vous estimez que c'est pas mal.
Je pense que la probabilité qu'on ait un plan de relance est élevée et elle monte de jour en jour. Pour moi, la séquence c'est à peu près celle-là. On n'a pas une boule de cristal, mais on essaie d'identifier des catalystes potentiels. Voilà, on sait le marché immobilier est toujours pas sorti de l'ornière, mais enfin de sa très forte décrue. On a des gouvernements locaux qui n'empruntent plus parce qu'ils peuvent plus le faire. Ils ont plus le droit de le faire non plus. On a une consommation qui est complètement en berne, donc l'économie chinoise. Veut dire, nous Européens, notre problème, c'est qu'on investit pas après. Le problème de la Chine, c'est qu'ils ne consomment pas assez. Et donc, en effet, si on a des taux de chômage des jeunes à l'automne qui dépassent les 20%, et je crois qu'il faut pas l'exclure.
On ne saura pas, ils publieront pas.
Ah si, ils publient. Il y a
un an, ils avaient arrêté.
Ils avaient arrêté. Ils republient ce qu'ils ont sorti des chiffres de publication, c'est tout l'emploi saisonnier des étudiants. Donc c'est pour ça que la série est un peu moins longue que ce qu'on avait par le passé, mais on a quand même 3-4 points. Aujourd'hui, on a 16%. En général, ce qu'on voit, c'est entre le mois de juin et l'automne, donc quand il y a tous ces étudiants chinois qui se retrouvent sur le marché du travail, il y a une hausse du taux de chômage des jeunes à peu près de 5%. Donc on part de 16, vous voyez où ça peut nous amener, et ça, ce serait, je crois, de nature à venir réveiller les autorités chinoises.
Une donnée à surveiller aussi, car pour le coup, en Chine, ce serait plutôt positive, c'est l'inflation. C'est-à-dire que je pense que voir une inflation qui arriverait progressivement sur un des premiers signes que la demande domestique s'accroît et que les entreprises ont un peu plus de pricing power. Donc là, pour le coup, en Chine, une inflation qui accélère un petit peu dans les mois qui arrivent, surtout après une relance, sera le signe qu'effectivement, la demande est en train de repartir.
On part de 1%. Ouais, en déflation, il n'y a pas si longtemps.
Et par rapport à la tech, vous sentez qu'il faut moins en dépendre, diversifier, et en même temps, on cherche à diversifier en dehors de la tech, sauf que la tech est de plus en plus partout, y compris dans les indices, Alphabet a rejoint d'autres zones, donc c'est compliqué de se décorréler complètement de la tech, même si on veut diversifier. Comment on fait ?
La tech, par exemple, en prenant le cas aux États-Unis, on voit depuis quelques jours quelque chose qui s'est mis un peu en route. On voit que, par exemple, les Mag 7 ont plus plutôt rebondi au moment où la partie semi-conducteur, donc en gros, il y a ceux qui vendent les pelles et les pioches, puis ceux qui achètent.
Les chercheurs d'or.
Voilà, exactement. Et on voit ça, un peu de rotation, c'est même de la tech américaine, hein, semi-conducteur qui baisse, et puis les Mac 7 qui remontent.
Ce qui est frappant, c'est que
le logiciel aussi.
Même si les 7 magnifiques sont montés, le Nasdaq lui a reculé. C'est-à-dire que les semi-conducteurs ont plus pesé que la hausse des 7 magnifiques.
Parce que là-dedans, vous avez des boîtes qui ont fait des x2, x3, comme en Corée du Sud, parfois un plus, en l'espace de quelques trimestres.
Donc,
il y a eu de l'abus.
Pour la diversification, enfin pour répondre à votre question sur la diversification, mais il y a un concept que j'aime bien, c'est celui du barbell, un peu comme l'alter, hein, donc qui est quoi, qui est que on va investir sur un actif plutôt cyclique, plutôt volatile, et on va dire le secteur technologique, en tout cas si on voit les niveaux d'anticipation qui y sont, et puis de l'autre côté on va investir quelque chose qui est complètement à l'autre bout du spectre, et peut-être des modèles d'affaires un peu plus ennuyeux, un peu moins passionnants, qui brillent un petit peu moins, et je crois que ça fait quand même une bonne construction de portefeuille, parce que le risque, c'est celui qu'on décrivait, c'est-à-dire qu'on ait un ralentissement du rythme de croissance, et si ça arrive, eh ben en général, ce qui tend à mieux fonctionner, c'est ce qu'on appelle des valeurs un peu plus boring, j'ai envie de dire. Alors, on dit qualité, mais qualité, personne dit qu'il achète des sociétés de mauvaise qualité. Je vais rester poli. Mais le secteur de la santé, je pense que ça peut fonctionner. Le secteur de la consommation. Alors, je préfère la consommation le luxe que l'auto, qui est aussi pour moi quand même plutôt cyclique. Mais ça peut être une façon d'équilibrer des portefeuilles actions. Et puis après, je crois qu'il y a la grande question du deuxième semestre, c'est est-ce que en effet, on aura un Kevin Warsh qui est cette forme de colombe machiavélique, manipulé par Trump et son entourage, ou est-ce qu'on a un Volcker bis? Et donc en face de ça, vendre des taux d'intérêt, parce que le risque, c'est quand même qu'on ait des taux d'intérêt qui remontent et que ça fasse éclater quelques bulles de valorisation telles qu'on peut en voir, des problématiques de financement de déficit des gouvernements, beaucoup d'émissions aussi, le coût du capital, faut les financer, les centres. Donner. Donc c'est peut-être ça un peu le nœud. Donc des actions, moi j'aime bien ce barbel, et à côté de ça, vendre des taux, et je crois que ça fait une construction de portefeuille qui tient la route.
Je pense que c'est un vrai scénario à jouer, effectivement, parce que où stocker son cash si on veut, si on a acheté de la tech pendant plusieurs années, effectivement la partie obligataire qui est très bien rémunérée, et il y a aussi des questions qui se posent pour le trésor américain. C'est-à-dire qu'on a vu que le jeu qui s'est fait au niveau du trésor depuis plusieurs trimestres, c'est de beaucoup emprunter à court terme. Donc la Fed d'ailleurs, on l'a assez peu dit, et Jérôme Powell, ça qui parfois me sidère, c'est que quand il s'est fait attaquer de manière honteuse pendant des mois par l'administration américaine, il aurait dû dire, regardez le bilan de la Fed, il a pris 200-300 milliards, c'est pourquoi on a fait ça, c'est pas pour nous, c'est pour qu'on n'a pas acheté les actions ou autre, on a acheté, on a mis la liquidité dans ce marché obligataire court terme pour permettre aux assureurs, aux banques ou autres d'absorber ce que le Trésor empruntait à très court terme, parce qu'il ne voulait pas faire de trop d'emprunts à des taux longs, parce que trop cher. Donc effectivement, se dire qu'on est un peu à saturation au niveau des taux côté US, et le Trésor en est la plus grosse illustration, qu'on ne peut pas monter beaucoup plus, parce que c'est un vrai problème après de soutenabilité de la dette côté États-Unis.
Je parlais de Machiavel. Monsieur Bessent et Monsieur Trump étaient extrêmement critiques de Madame Yellen quand elle faisait ça, et ils font exactement la même chose. Voilà.
Ah oui, c'est le retour au réel.
Et donc en fait, oui, comme dit Alexandre, ils ont fait la passe, ou c'est plutôt la patate chaude que la passe, je crois. Ils ont passé la patate chaude à Monsieur Powell et à la Fed.
Pour terminer sur les publications des entreprises, est-ce que vous pensez qu'aux États-Unis beaucoup feront comme Nike, à savoir réintégrer comme ça en one shot le remboursement, vous savez, des droits de douane par l'administration américaine? Il y a eu des remboursements à part d'entreprises. Est-ce que beaucoup vont les réintégrer comme ça en one shot, ce qui va gonfler leurs bénéfices, et on va tous se dire waouh, quelle saison de résultats, alors qu'en fait c'est juste une réintégration de remboursement?
Oui, je crois, et je crois que c'est aussi de plus en plus, on va dire, ignoré par le marché ou intégré par le marché. D'ailleurs, à sujet, une anecdote amusante. Alors ça en usera certains, et sans doute moins d'autres. Vous savez, il y a un autre fabricant de baskets qui s'appelle Skechers, qui a été vendu à un fonds de capital investissement il y a à peu près un an de ça. Et il a été vendu sur des niveaux de valorisation extrêmement bas, parce que c'est toutes ces craintes de tarifs douaniers. Et vous faites avance rapide un peu plus tard, vous savez qui va récupérer ce remboursement de tarifs douaniers. C'est le fonds de capital investissement et pas la famille qui a vendu cette grande marque de basket. Voilà, c'est UUSK, hein, parfois.
Oui, effectivement, c'est la magie de la finance.